Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 12, l'œuvre divine, Sri Aurobindo, la synthèse des yogas, number one, le yoga des œuvres, traduit de l'anglais par la mère. Cette œuvre, aucune règle de fabrication mentale, aucune norme humaine ne peut la fixer, car sa conscience est sortie de la loi et des limites humaines pour passer dans une liberté divine. Elle a quitté le gouvernement de l'extérieur et du transitoire pour entrer en la règle spontanée de l'intérieur et de l'éternel. Elle a laissé la servitude des formes du fini pour vivre dans la libre détermination de l'infini. De quelque manière qu'il agisse et qu'il vive, dit la Gita, il vit et agit en moi. Les règles édictées par l'intellect humain ne peuvent pas s'appliquer à l'âme libérée. Un être comme lui ne peut pas être jugé d'après des tests et des critères extérieurs que prescrivent les préjugés des hommes et leur association mentale. Il est en dehors de l'étroite juridiction de ces tribunaux faillibles. Et peu importe qu'il porte la robe de l'ascète ou qu'il vive pleinement la vie de famille, qu'il passe ses jours dans ce que les hommes appellent les œuvres saintes ou qu'il les passe au milieu des activités variées du monde, qu'il se consacre directement à conduire les hommes vers la lumière, comme Bouddha, le Christ ou Shankara, ou qu'il gouverne un royaume comme Janaka, ou qu'il se fasse chef politique ou conducteur d'armée comme Krishna. Peu importe ce qu'il mange ou ce qu'il boit, et quelles sont ses habitudes et ses occupations, qu'il réussisse ou qu'il échoue, que son œuvre soit constructrice ou destructrice, qu'il soutienne ou restaure un ordre ancien ou qu'il travaille à le remplacer par un ordre nouveau. Peu importe que ses compagnons soient de ceux que les hommes se plaisent à honorer ou de ceux que leur pharisaïsme proscrit et réprouve. Que sa vie et ses actes soient approuvés par les contemporains ou qu'ils soient condamnés comme un corrupteur d'hommes ou comme un fomenteur d'hérésies religieuses, morales ou sociales. Ce n'est pas les jugements des hommes qui le gouvernent, ni les lois fixées par l'ignorant. Il obéit à une voix intérieure. Il est mu par un pouvoir invisible. Sa vie réelle est dedans. Et la seule description qu'on puisse en faire, ce qu'il vit, agit ou se meut en Dieu, dans le divin et dans l'infini. Mais si son action n'est pas gouvernée par une règle extérieure, il observera une règle cependant, et une seule, qui n'est pas extérieure. Son action ne sera pas dictée par un désir, ni par un but personnel, mais fera partie intégrante de l'action divine dans le monde, parce qu'elle porte son ordre en soi. La Digita déclare que les actes de l'homme libéré ne doivent pas être dirigés par le désir, mais servir à maintenir la cohésion du monde, à le gouverner, le guider, le pousser et le garder sur le chemin qui lui est assigné. Cette injonction a été interprétée en ce sens, que le monde était une illusion dans laquelle la plupart des hommes doivent être gardés puisqu'ils ne sont pas prêts à la libération. L'âme libérée doit agir extérieurement de façon à leur faire chérir l'attachement aux travaux coutumiers tels qu'ils leur sont prescrits par la loi sociale. Si vraiment il en était ainsi, ce serait une pauvre, mesquine règle, et tout noble cœur la rejetterait pour suivre plutôt le vœu du divin du Bouddha Amitabha, la prière sublime de la Bhagavad Gita, ou l'aspiration passionnée de Vivekananda. Par contre, si nous acceptons de penser que le monde est un mouvement de la nature divinement guidée, et que dans l'homme ce mouvement émerge vers Dieu, et que telle est l'œuvre à laquelle le Seigneur de la Gita est toujours occupé ainsi qu'il le déclare, bien qu'il n'en ait gagné, qu'il n'ait rien gagné pour lui-même, qu'il n'ait déjà gagné. Alors un sens profond et vrai apparaîtra sous cette grande injonction. Participer à cette œuvre divine, vivre le divin dans le monde, telle sera la règle du karma yogi. Vivre le divin dans le monde et donc agir de telle sorte que le divin puisse se manifester toujours plus et le monde avancer sur les voies de son obscur pèlerinage, quelle qu'elle soit, et se rapprocher sans cesse de l'idéal divin. Comment procédera le karma yogi? De quelle manière particulière? Aucune règle générale ne peut en décider. C'est du dedans que l'œuvre doit s'élaborer ou se définir. La décision est une affaire entre le divin et notre moi, entre le moi suprême et le moi individuel, qui est l'instrument de l'œuvre, avant même la libération. C'est du moi intérieur, dès que nous en devenons conscients, que vient la sanction, le choix spirituellement déterminé. C'est du dedans absolument que doit venir la connaissance du travail qui doit être fait. Il n'est pas de travail particulier, pas de loi ni de forme invariable de travail, ni de manière de travailler qui puisse être fixée du dehors et dont on puisse dire que c'est le mode de l'être libéré. Certes, la phrase de la Gita définissant le travail qui doit être fait a été interprétée dans le sens que nous devons faire notre devoir sans se soucier du fruit. Mais cette conception est issue d'une culture européenne qui, par ses concepts, est plus morale que spirituelle et plus extérieure qu'intérieurement profonde. Nous avons dit que tant que le chercheur n'a pas la lumière intérieure, il doit se gouverner selon la meilleure lumière dont il dispose. Et le devoir, les principes, les nobles causes font partie des formules qu'il peut temporairement ériger et suivre. Mais après tout, les devoirs sont des choses extérieures. Ils ne sont pas de la substance de l'âme. Et sur ce chemin, ils ne peuvent pas fournir une règle d'action ultime. Se battre est le devoir du soldat quand il est pelé sous les armes. Et de même, tirer sur ses parents et ses amis. Mais pareille règle ou tout autre genre ne saurait être imposé du tout à l'homme libéré. Par contre, aimer, avoir de la compassion, obéir à la plus haute vérité de son être, suivre les ordres du divin, ne sont absolument pas des devoirs. C'est la loi de notre nature lorsqu'elle s'élève vers le divin. C'est une action qui découle d'un état d'âme, d'une autre réalité de l'esprit. De même, l'action du travailleur libéré doit être une coulée d'âme. Elle doit venir à lui, ou jaillir de lui comme un résultat naturel de son union spirituelle avec le divin, et non être le produit d'une construction édifiante de la pensée ou de la volonté mentale, de la raison pratique et du sens social. Dans la vie ordinaire, une règle, une formule ou un idéal personnel, social ou traditionnel est le guide. Mais dès que le voyage spirituel a commencé, tout cela doit céder une place à une règle et une manière de vivre intérieure et extérieure, qui est sa nécessité pour notre discipline particulière et notre libération, notre perfection, une manière de vivre qui s'accorde à la voie que nous suivons ou qui est ordonnée par le guide, le maître spirituel, le gourou, ou dictée par le guide qui est en nous. Et quand nous parvenons à l'ultime état, qui est d'infinitude et de liberté d'âme, toutes les règles extérieures sont laissées de côté ou s'effacent. Il reste seulement une obéissance spontanée et intégrale au divin, à qui nous nous sommes unis, et une action qui accomplit spontanément la vérité spirituelle intégrale de notre être et de notre nature. Mais dans ce sens profond qu'il faut interpréter la maxime de la Gita quand elle déclare que la loi de nos œuvres doivent être déterminées et gouvernées par notre nature. Il ne s'agit pas certainement du tempérament superficiel, ni du caractère des impulsions habituelles, mais de notre être propre, au sens libéral du mot sanskrit, de notre nature essentielle, de la substance divine de notre âme. Tout ce qui jaillit de cette base et coule de ses sources est profond, essentiel, juste. Le reste, opinion, impulsion, habitude, désirs vitaux, sont simplement des formations superficielles ou des lubies fortuites de l'être et des contraintes du dehors. Elle fluctue et change, tandis que notre nature essentielle reste constante. Ce ne sont pas les formes que la nature prend en nous pour s'accomplir, qui sont nous-mêmes ou notre visage toujours pareil à lui-même, qui nous exprime. C'est l'être spirituel en nous. Et ceci comprend aussi le devenir de notre âme qui persiste à travers le temps dans l'univers. Une action divine jaillit spontanément, librement et infailliblement de la lumière et de la force de notre moi spirituel uni au divin. Tel est l'ultime état du voyage du yoga intégral des œuvres. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la libération n'est pas d'être délivrés individuellement de la douleur du monde, bien que cette délivrance aussi nous sera donnée, mais d'être un avec le divin, le suprême, l'éternel. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la perfection et un état suprême de pureté, de connaissance, de force, d'amour, de capacité, n'est pas de pouvoir jouir personnellement de la nature divine, ni même d'être tel des dieux, bien que cette jouissance-là aussi nous sera donnée. Mais parce que cette libération et cette perfection sont la volonté divine en nous, parce qu'elles sont la plus haute vérité de notre moi dans notre nature, le but depuis toujours prévu de la manifestation progressive du divin dans l'univers. La nature divine est libre, parfaite, béatifique, et elle se manifeste dans l'individu afin de pouvoir se manifester dans le monde. Même quand il est plongé dans l'ignorance, l'individu vit vraiment dans l'universel et pour le dessein universel. Car même quand ses actes poursuivent les desseins de son ego et les désirs de son ego, il est obligé par la nature de contribuer par son action égoïste à l'œuvre et au dessein de la nature dans les mondes. Échapper à l'ego et s'unir au divin, c'est à la fois libérer notre individualité et l'accomplir parfaitement. Ainsi, libérer, purifier, perfectionner. L'individu, l'âme divine, vit consciemment et pleinement dans et pour le divin cosmique, dans et pour le divin transcendant, et pour le divin, sa volonté dans l'univers, ainsi qu'il en était depuis les commencements. Sri Aurobindo. I deposit this at the feet of Sri Aurobindo and the Mother. Thank you. Merci.